France Culture se fait l'écho du forum Le Monde, Le Mans qui s'est tenu au Mans le 13 novembre dernier sur le thème « Où est le pouvoir ?». Aujourd'hui, cinquième et dernière émission, Dieu peut-il tenir promesse ? Une rediffusion du 17 juillet 2015 avec Rachid Benzine, islamologue. Une émission de Jean Birnbaum suivie d'un débat au cours duquel les spectateurs posent des questions à Rachid Benzine, mais également à Delphine Horviller, rabbin, et à Jean-Luc Marion, philosophe.
Rachid Benzine, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes islamologue, entre autres choses, vous avez fait des études d'économie, de sciences politiques, mais vous avez été champion de France de kickboxing en 1996. Et je dois dire que c'est très forum philo du Mans, ça, ce télescopage, si j'ose dire, entre une pratique combative de défense des choses et le rayonnement des idées. Vous êtes donc quand même d'abord, et c'est pour ça que vous êtes ici, islamologue, chercheur en herméneutique coranique. Vous effectuez un important travail critique à l'intérieur de la tradition musulmane, en vous consacrant notamment à l'étude des cadres sociaux, culturels et historiques dans lesquels cette tradition a vu le jour. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment le Coran expliqué aux jeunes, qui est paru l'année dernière au Seuil, et aussi un ouvrage important qui s'appelle Les nouveaux penseurs de l'islam, publié chez Albin Michel en 2004, où on le retrouve, 8 intellectuels qui s'efforcent d'inventer ce que vous appelez une modernité islamique, notamment en étudiant le Coran au prisme des sciences humaines et sociales, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la sémiologie, avec une réflexion sur le statut de la vérité, le pluralisme des lectures et des points de vue, on y revient. Et parmi ces intellectuels, on retrouve notamment Mohamed Harkoun, grand intellectuel franco-algérien qui nous manque aujourd'hui, il est mort il y a 4 ans. Et Mohamed Harkoun, comme vous le rappelez, a lutté contre ceux qui veulent faire de la religion un instrument de domination, d'oppression. Il a entrepris ce que vous appelez une déconstruction de toute cette tradition. Et je pense qu'on pourrait lui dédier cette matinée, tout comme on pourrait lui dédier cette matinée à quelqu'un qui vient de nous quitter il y a très très peu de temps et que les auditeurs de France Culture connaissent très bien, et pas seulement les auditeurs de France Culture, Abdelwahab Medeb, qui est l'auteur d'ouvrages importants sur la tradition musulmane et sur une certaine modernité islamique. Et je pense qu'on peut dédier cette matinée à Harkoun et à Medeb, non seulement à leur mémoire, mais à l'avenir de leurs textes et de leurs pensées.
Merci Jean Birnbaum pour cette invitation. Je vais commencer mon intervention qui s'intitule « Le discours prophétique comme promesse ». Et pour amener cette réflexion avec vous, je souhaiterais me mettre, je dirais, ou être accompagné par trois auteurs dont je vais vous donner les citations, dont un qui s'appelle Mohamed Harkoun, qui fut un de mes maîtres historiens de la pensée islamique, Michel Foucault, que vous connaissez, et Paul Ricoeur, dont vous avez entendu parler hier. Je commencerai par cette citation de Mohamed Harkoun sur le discours prophétique. Le discours prophétique, pas simplement en tant que discours religieux, qui amène, je dirais, la variable religieuse, mais un discours prophétique au sens linguistique du terme. Il dit cela, il dit « J'appelle moment prophétique la conjonction d'une dialectique historique locale, donc dans l'histoire, avec un discours de structure mythique. Chaque élément est important, qui transfigure des acteurs et des conduites ordinaires en tension spirituelle éducative entre l'homme appelé à l'exercice d'une liberté responsable et un Dieu qui serait vivant, transcendant, progressivement intériorisé comme un vis-à-vis exigeant, compatissant, protecteur et bienfaiteur. » La deuxième citation, c'est celle de Michel Foucault qui dit que dans le courage de la vérité, le prophète ne parle pas pour lui-même, mais parle au nom de quelqu'un d'autre et articule une voix qui n'est pas la sienne. Et enfin, une citation qui est peut-être un peu trop longue, mais que je résumerai de Ricoeur, où il essaye de mettre en avant cette idée de la promesse. Et il dit que « J'attache beaucoup d'importance à la promesse parce qu'on peut dire que toute la philosophie y est résumée. Tout d'abord parce que pour Ricoeur, dans la promesse, il y a d'abord l'acte de parole. On dit d'ailleurs donner sa parole. Mais sa parole, comment la maintenir? Comment, je dirais, à partir de cette parole, on s'engage, on se donne en gage, ce qui suppose la question aussi de la temporalité. Comment se maintenir malgré ce que Proust appelait les intermittences du cœur et du temps? Donc ça suppose l'idée de, je dirais, d'un rapport à soi, de soi vis-à-vis de soi, comment se maintenir malgré le temps quand on en promet. On engage l'autre puisqu'on promet à quelqu'un, on se promet pas tout seul, mais on promet à l'autre, on engage quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui est très important, au-delà de soi et de l'autre, il y a d'abord ce que Ricoeur appelle l'institution du langage. Puisque le langage repose d'abord sur la confiance. Lorsque l'on se promet, on se promet d'abord un acte de langage, et donc c'est un acte, je dirais, de véridiction. Et dans la violation de la promesse, il y a donc non seulement une façon de trahir soi et l'autre, mais trahir ce qui nous fonde, c'est-à-dire à partir du langage et de la parole. Et si je fais ce détour que je vous propose, c'est pour justement montrer que les trois religions ou les trois versions du monothéisme, elles sont comprises comme un Dieu d'abord qui se donne, et notamment soit par la parole, soit qui vient habiter la condition humaine à travers, je dirais, le christianisme. Mais tout d'abord, Dieu est compris comme celui qui parle. C'est le grand parleur, il n'arrête pas de parler, et sa parole est créatrice de ce que nous pouvons appeler l'être. Et du même coup, il est le garant de la valeur, de la facticité de la parole humaine. Il ne peut pas y avoir, je dirais quelque part, de parole de Dieu sans la parole humaine. Et dans les traditions monothéistes, la parole humaine, quelque part, rejoint ou peut rejoindre dans un certain, dans une certaine mesure, l'idée de la parole de Dieu qui se donne toujours dans un langage humain, dans une situation historique, je dirais, dans un imaginaire, dans une certaine manière de se représenter le monde. C'est-à-dire que cette parole de Dieu a besoin finalement de la médiation humaine, elle a besoin du langage, mais on sait aussi toute la fragilité du langage, puisque le langage lui-même représente, je dirais, une construction, une certaine construction. Ce que je veux dire pour commencer, c'est que, tout d'abord, le discours prophétique relève d'abord d'une espèce d'approbation originaire. Cette approbation qui dit d'abord la confiance de Dieu en l'homme, et pour l'homme, cela consiste à savoir que sa vie est fondée d'abord sur un oui. Et ce oui dans les textes religieux est un oui de Dieu. Ce n'est pas simplement un oui à toute naissance, c'est un oui qui a en plus le sceau d'une vocation, le sceau d'une élection. On est choisi. Et être, finalement, c'est déjà une promesse. Il s'agit tout simplement de s'en saisir durant toute son existence pour la renouveler. Au fond, ce que l'on peut dire, c'est que toute vie correspond à une vocation. Et rien que le fait de croire cela en face de n'importe qui, pas forcément par rapport à soi, mais aux autres, peut suffire à subvertir, à transformer l'existence de l'autre dans notre propre regard. Et puisque nous sommes un dimanche matin, je vais vous proposer une parole coranique d'abord en arabe pour vous donner à entendre une citation de la sourate 2 verset 30 qui dit donc c'est Dieu qui s'adresse aux anges pour leur présenter son projet, et le Coran dit wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Et donc, si je dois vous traduire en français, qui dit lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, ou plutôt un successeur, ils dirent vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répondra le sang? Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Et un autre verset qui dit, toujours dans cette même sourate, « Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi ceux qui recusent. » Donc cette vocation d'un oui originaire d'un Dieu qui justement vient. On est toujours, hein, on n'est pas dans un, je dirais, on n'est pas dans un temps au sens de l'histoire. Là, on a affaire à un récit de structure mythique. Et que le mythe est un langage pour dire quelque chose de l'origine. Ça, c'est très important de bien pouvoir le comprendre et de ne pas prendre Monsieur Adam, Madame Ève pour des êtres historiques tels que vous et nous aujourd'hui au Mans. Et finalement, je dirais que celui qui vient de Dieu est une des choses les plus profondes aujourd'hui et le sentiment finalement de l'absurde. On avait un sens de l'histoire en étant dans un grand discours du progrès des Lumières, de l'émancipation. Et tout cela pour créer une société où il n'y a jamais eu autant d'esclavage, de solitude, d'exclusion, et c'est profondément décourageant. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est que le discours prophétique s'accompagne à la fois sur ce courage d'être et sur ce oui, mais que il y a aussi du découragement face à la promesse qui nous était donnée. Et cette brèche prophétique dont je parlerai, ce découragement, l'angoisse font aussi partie de l'expérience prophétique. Le découragement, c'est finalement la déception entre la réalité que nous voyons puis la promesse qui nous avait été faite. On espère tout cela et voilà si ce que l'on a. Le discours prophétique, c'est aussi briser la complaisance. Le cœur de la prophétie, il faut le rappeler avant tout que c'est nous qui n'allons pas bien. Ce n'est pas la faute aux autres. Dire que c'est la faute des autres, c'est le discours de la complaisance. Le discours prophétique propose une rupture intérieure. Et si notre réalité, à ce point, trahit les promesses, c'est que peut-être nous n'avons pas bien compris la promesse en elle-même. Le cœur de la prophétie est toujours une promesse de vie et c'est une promesse de bénédiction. Et ce qui est très intéressant dans le discours coranique, c'est que, justement, il est dit que Dieu ne manque jamais à sa promesse. Et comme le discours coranique advient dans une culture de l'oralité, où la notion de la parole, de l'engagement est très important, on demande aux gens, lorsqu'ils font des serments, de tenir parole. Et s'ils ne venaient pas à tenir parole, on leur propose des expiations. Par exemple, dans une sourate où des gens justement, où Dieu reproche aux hommes justement de ne pas tenir leurs paroles, de ne pas tenir leurs serments, et il leur dit que c'est un péché grave. Mais il y a aussi toujours l'idée d'une expiation. Et parfois, il leur propose justement de donner une certaine partie de leur richesse. S'ils n'ont pas de richesse, justement, s'ils n'ont pas trop de grandes richesses, de nourrir des pauvres. Et s'ils n'arrivent pas à nourrir des pauvres, de jeûner au moins un, voire trois jours. Et il y a toujours cette idée, finalement, dans cette société, où la notion du compromis, où on essaye de réfléchir sur cette parole que, je dirais, que l'on engage. Je vous disais que le cœur de la prophétie est toujours une promesse de vie, et c'est une promesse de bénédiction. C'est ce que dit Camus, notamment, dans L'homme révolté. Une révolte qui est uniquement destructrice, qui tue, qui salit, qui casse, c'est une révolte au nom de la mort, ce n'est pas une vraie révolte. La vraie révolte est toujours au nom de la vie. Et Camus a absolument raison, c'est un athée, il traite de l'absurde, mais il avait mis le doigt sur quelque chose de très important. Il y a, dans les puissances révolutionnaires de son temps, comme celle d'aujourd'hui, une pulsion de mort, et il se battait contre cette pulsion de mort. Et donc la brèche prophétique, la parole prophétique vient bouleverser un ordre social et politique qui repose avant tout sur le théologique, mais ce théologique qui se structure sur trois pôles. Le premier pôle, c'est d'abord le roi, la souveraineté, qui est informée et conseillée par les sages et les savants, qui en retour perpétue et sacralise la tradition. Le deuxième élément, le deuxième pôle, c'est le guerrier, qui défend le roi et la patrie, et le troisième, c'est le paysan ou l'artisan, qui apporte les moyens de subsistance nécessaires à tous. Qu'est-ce que fait le geste prophétique? Il vient justement crever la surface lisse de cet ordre terrestre bien établi, il le retourne en proposant une nouvelle alliance libératrice pour l'homme. Et ça passe par cinq éléments. Tout d'abord, au nom d'un Dieu, puisque je vous disais que le discours prophétique, où le prophète ne parle pas en son nom propre, mais parle au nom d'un autre, au nom d'un Dieu ancien, de vos pères, alors qu'on peut l'appeler Elohim, le Père, ou Allah, une parole est adressée à un ramassis de peuples, une population transethnique et déclassée, l'invitant à sortir de l'idéologie. Alors ça peut être l'exode, ça peut être, je dirais, l'égir pour la tradition musulmane. L'immigration géographique n'étant que la métaphore de cette sortie du religieux vers une utopie pour édifier une solidarité nouvelle de justice et de compassion qui tourne le dos à la fois à la souveraineté, la militance et la production. Et ce que l'on peut dire, c'est que la Méditerranée orientale a en tout cas connu assez tôt cette insurrection contre la légitimation théologique de l'exercice des pouvoirs. L'insurrection prophétique n'a plus jamais cessé de s'attaquer aux esclavages qui asservissent l'homme, fût-il le fait du roi. Et dans la tradition coranique, sourate 37, vous avez Ibrahim, qui est Abraham, libère ceux qui sont sa descendance par le ralliement à un seul Dieu contre le poids traditionnel d'une religion des pères avec laquelle il tente de rompre. Moïse, à qui Dieu a réellement parlé dans le Coran, manifestement le même que celui du domaine biblique, a affronté et vaincu la figure qui cristallise l'organisation du pouvoir de droit divin, Pharaon. Il l'a affronté après avoir convoqué un ramassis de peuples pluriethniques et l'appel d'un seul Dieu dont la puissance les libérait ensemble du pouvoir inu de Pharaon pour leur donner de vivre une libre obéissance à sa loi, sans médiateur, roi ou prêtre. Jésus de Nazareth, avant qu'il devienne Jésus-Christ par le processus de théologisation, après des siècles de rivalité dans une société juive entre roi et prêtre d'une part, prophète d'autre part, vient s'inscrire dans la lignée de ces derniers en convoquant un nouveau peuple, lui aussi pluriethnique, pour un royaume universel qui ne serait pas de ce monde et le libérerait de toutes les puissances, même de l'épouvante derrière de la mort. Il reste un seul commandement, aimer Dieu et le prochain comme une grâce imméritée et victorieuse. Il est clair que Mohammed convoque aussi contre lui toutes les servitudes de l'heure, un nouveau peuple qui n'a d'autre allégeance que finalement vis-à-vis de son Dieu. Et c'est cette idée de finalement où le discours coranique fonctionne à travers de phénomènes, je dirais, d'alliance, parce que le rapport au surnaturel dans cette société, il faut toujours le prendre sur le fonctionnement des sociétés. Et à partir du moment où on est dans des sociétés, je dirais, où la survie est très importante, la notion de la solidarité de clan et de tribu fonctionne sur le phénomène, justement, cette socialité va reposer sur l'idée de faire des alliances. Et le rapport au surnaturel dans la société du 7e siècle va aussi fonctionner sur ce rapport d'alliance, et Dieu va devenir finalement le véritable allié. Et à mon avis, c'est un contresens historique en termes de signification de prendre l'idée de l'islam comme soumission. Le terme, dans la manière dont il fonctionne dans cette société, relève tout d'abord d'un phénomène d'alliance, mais je dirais de protection, de sauvegarde. L'islam, c'est une alliance de protection et de sauvegarde dans cette société-là. Puisque dans cette société, vous ne pouvez pas contraindre les gens, vous ne pouvez pas contraindre les groupes, et que l'idée de contrainte est impossible anthropologiquement dans cette société. Les gens se rallient à une cause et se désallient en fonction des enjeux des uns et des autres. C'est très important pour tenter de comprendre comment le discours coranique tente de créer une brèche à l'intérieur de ce dispositif. La structure profonde de cette aventure renouvelée de l'insurrection prophétique est un geste variable sous la forme, dans sa forme, puisque, je dirais, le geste de Moïse et le geste de Jésus et le geste de Mohammed, s'établissent en fonction des structures de la société. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est que ce geste-là, il est permanent dans le refus d'une légitimation théologique qui ferait intervenir le ou des dieux de l'exercice du pouvoir dans la société humaine. Il ne s'agit pas de révolution perpétuelle, d'anarchie ou de pulsion de mort sociale, seulement de ceci. Il y a une parole venue d'ailleurs qui libère l'homme pour un exercice responsable de sa liberté, qui le prédispose à obéir à une loi transcendante, ce que sont ici et maintenant les intérêts des fonctions sacerdotales, guerrières ou productives unifiées par le souverain ou le roi. Les exigences de la fraternité prendront le relais. C'est une affaire continuellement à reprendre dans la mesure où la descendance historique de ce Moïse, de ce Jésus ou de ce Mohammed se laisseront sans cesse à nouveau dominer par l'un ou l'autre de ces trois pôles et par la pensée magique qui force des pouvoirs auxquels soumettent tout ce qu'il y a de plus passif dans l'homme. Au long de l'histoire, des interprètes devront analyser à nouveau frais en quoi consistent ces usurpations, les masques sous lesquels elles apparaissent, les figures qu'elles prennent, que ce soit les souverains, les clercs, les guerriers, les marchands, les propriétaires. Constamment, il reviendra au plus difficile de démasquer les nouveaux asservissements et de rendre la parole à la fois au discours prophétique libérateur et à ceux qui, justement, n'ont plus la parole. Car cette épopée est tout au long de celle d'une clarification recommencée d'un énoncé fondateur qu'on appelle le message, avec une orientation créatrice qui renouvelle le statut personnel du lecteur auditeur croyant. L'interpellation prophétique est au service d'une parole autre. En interprétant le monde pour l'homme, elle donne à ce dernier vocation à interpréter lui-même un message toujours réempoussiéré, toujours à dépoussiérer, toujours à réinventer. La parole ainsi donnée donne à son tour la parole à ceux qui ensemble vont la prendre à leur tour pour faire du monde l'espace possible de l'invention d'un bien vivre et bien faire fraternel. Le sujet ainsi convoqué et constitué va entrer dans une conversation toujours déjà commencée avant lui, mais à poursuivre absolument pour qu'elle ne meure pas de vacuité ou d'étouffement. Il y a des contresens qui tuent et il y a du sens qui fait vivre. La figure peut être à première vue si sombre du prophète est toujours finalement celle du miséricordieux qui, au lieu de rester dans l'imaginaire instrumentalisé des peuples, une sorte de triple dieu, juge guerrier, grand monnayeur, plus ou moins rangé sous un même nom, a déjà fait grâce en donnant sa parole. L'insurrection prophétique est peut-être simplement un appel à vivre qui est toujours à déchiffrer avec cette possibilité de réouvrir des possibles, notamment à partir du passé. Le passé peut-être n'a pas tenu ses promesses, il s'agit de reprendre cet énoncé fondateur. Et c'est là que nous pouvons faire arrêter finalement, ou nous pouvons nous arrêter à un des effets de cette lecture du fait prophétique, parce qu'il revendique le sujet destinataire pour le faire bénéficier d'une liberté neuve, en même temps que d'une recherche de la bonne conduite selon l'ordre du miséricordieux, selon le Coran. Ce fait est une promesse, il ouvre une promesse, et loin d'enfermer dans le maillage des prescriptions, il trace les avenues d'un chantier pour inventer des règles de la meilleure fraternité aujourd'hui. Le fait prophétique vise le bonheur de ceux qu'il touche ou ceux qui l'entendent. Il est toujours à conquérir sur la méchanceté, l'habitude et l'inertie. C'est un bonheur sans égoïsme parce que c'est l'autre avec un grand A qui ouvre cet avenir que l'on désigne comme l'objet du prophétisme. Alors nous sommes des religions de la parole, oui. Nous sommes des religions de ce que le Coran appelle le livre, mais pas au sens de livre tel que nous l'entendons, oui, mais avec du prescriptif à lire selon la visée émancipatrice prophétique. Nous sommes des religions monothéistes, oui, mais je dirais toujours avec un regard fraternel lorsque la spiritualité des lointains moines, par exemple, en robe safran, les incite à affronter la dictature. Et il n'y a pas, je terminerai là-dessus, il n'y a pas non plus de promesses sans transmission. La transmission est un élément très important et je terminerai là-dessus. Dans la sourate 37, sur ce fameux récit que nos cousins juifs et chrétiens appellent le récit de la ligature ou le récit du sacrifice, le fils n'est pas nommé. Si le fils est nommé trois fois Isaac est nommé dans la Bible trois fois, le nom qui est, du fils qui est amené à être sacrifié n'est pas nommé, c'est-à-dire que le discours coranique va déplacer la problématique, non pas sur la généalogie, mais sur un autre élément, c'est beaucoup plus sur l'idée de la filiation spirituelle. Et au sein de ce récit que vous trouvez dans la sourate 37, il y a un dialogue qui est très intéressant entre Abraham et son fils. Nous avons Abraham qui vient justement, on retrouve ça dans un récit midrashique, où Abraham va venir rompre avec les siens, justement, il est chassé et il dit, je vous le cite, il dit « Je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Mon Seigneur, donne-moi un fils qui fasse partie des justes. » Nous lui fîmes annonce d'un garçon sage, mais quand son fils put suivre le suivre, il lui dit « Oh mon fils, je me vois en songe en train de te sacrifier. Dis-moi ce que je dois faire. » Et son fils répond « Fais ce qui t'a été ordonné, je serai, si Allah le veut, justement sur cette idée de la promesse, de ce qui le supporte. » Et c'est très intéressant parce que ici, justement, nous avons Abraham qui a une vision et il ne sait pas comment interpréter cette vision-là, cette vision de promesse ou peu importe. Et il n'empêche que c'est le fils qui interprète la vision du père. Donc il y a un acte herméneutique à travers non seulement entre l'émetteur ou le locuteur du discours coranique, entre lui et cette vision qu'il donne à la figure d'Abraham, et justement ce fils qui interprète, cette vision. Donc dans la péricope du discours coranique, c'est le fils qui aide le père à donner du sens. Et il s'agit aujourd'hui de ceux justement qui s'inscrivent dans cette tradition-là, de pouvoir reprendre, ce discours pour tenter de l'amener ailleurs, parce que c'est vers l'ailleurs que se trouve l'idée de la promesse, et je vous remercie.
Bonjour.
Bonjour
à tous. J'ai une question à poser donc, à monsieur Jean-Luc Marion. Alors, j'aimerais savoir si c'est la promesse selon l'homme animal ou l'homme spirituel. Et de dire aussi que Dieu n'est-il pas maître du temps et des circonstances en ce qui concerne la promesse.
Alors, déjà la distinction entre l'homme spirituel et l'homme animal, comme vous dites, pourrait être discutée ou affinée. Essayons de reprendre l'identité de celui qui reçoit la promesse, l'homme, animal ou pas, ou spirituel, à partir de la nature de la promesse. Et je me permets de revenir sur ce que j'avais indiqué. Je pense que la promesse est dans son fond toujours la même. La promesse est toujours érotique au sens large du terme, précis. C'est-à-dire, elle a comme objet, elle consiste à dire « je t'aime ». C'est pour ça qu'elle peut être érotique au sens étroit du terme, comme le rappelait Delphine Norviller. Alors, à qui dit-on, peut-on dire « je t'aime » ? Est-ce que c'est à l'homme spirituel ou à l'homme, comme vous dites, animal ? Je pense que, justement, c'est à l'homme en tant que sujet érotique, si vous voulez, en tant qu'il est pris dans l'intrigue aimer, être aimé. Et c'est ça qui fait l'unité. Donc je ne pense pas qu'on ait à choisir entre les termes que vous indiquez. Et il est très important de voir que si la promesse, en quelque manière, crée l'avenir, comme acte de langage qui ouvre, elle crée l'avenir parce que je ne peux pas dire « je t'aime » sans impliquer que c'est pour toujours. Et donc, quand je dis « je t'aime », j'ouvre de l'avenir. Et d'ailleurs, c'est de fait l'expérience que nous faisons. C'est-à-dire, si on a l'impression qu'avec quelqu'un, quelque chose se passe, comme on dit, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que quelque chose va pouvoir se passer, ou ne pas se passer. Mais c'est bien en termes d'un événement à venir que se décide le rapport érotique. Donc la promesse est toujours érotique et elle temporalise en tant qu'érotique.
Alors ma question s'adresse un peu aux trois intervenants. Alors je vais toucher un problème qu'on n'a pas abordé ou en tout cas que je n'ai pas entendu depuis que je viens au forum. Donc en fait, la vie est une promesse en soi. Elle est la promesse que la mort viendra. Le paradis serait cet endroit où la vie est éternelle, ce que promet Dieu, ou en tout cas le Dieu, des trois religions monothéistes. Parce que la promesse de Dieu de nous donner une vie éternelle est en fait la promesse qui fait que nous espérons et que nous croyons en Dieu. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres promesses, mais il n'y a qu'une promesse, à mon avis, qui sera tenu, c'est que pour chacun d'entre nous, en tout cas vivant ici dans cette salle, la mort viendra. Et monsieur, tout à l'heure vous avez dit que en fait la promesse ne peut pas être tenue. En tout cas là, je pense qu'il y a une promesse qui sera à coup sûr tenue.
Delphine Horviller.
Moi, je crois qu'il y a une phrase dans la Bible assez centrale, vous connaissez peut-être, qui dit « L'Éternel dit, j'ai placé devant vous la vie et la mort et tu choisiras la vie ». Je crois qu'il y a au contraire dans cette idée de promesse, non pas tant la certitude de la mort qui arrive, mais la nécessité permanente ou l'invitation permanente à choisir la vie, même si la mort, elle est toujours là, y compris dans la vie. Et je crois qu'on a beaucoup parlé tout au long de ces prises de parole de la problématique de la promesse qui est une problématique de finitude, c'est-à-dire que le temps présent s'enfuit, nous échappe. Comment est-ce que je peux faire une promesse et choisir la vie alors que tout meurt en permanence, alors qu'en réalité je suis toujours en train de mourir et qu'en réalité, s'inscrire dans la vie, c'est faire le choix permanent de ce qui peut continuer, de ce qui peut durer chez moi. Voilà. Donc, pour moi, la promesse n'est pas tant la conscience d'une mort qui arrive que ce choix permanent du vivant dans une vie où la mort est omniprésente.
Je dirais que là, vous avez abordé l'idée de la promesse au niveau de la mort. Le discours coranique, justement, multiplie à la fois les métaphores, le langage et même parfois, d'un point de vue anthropomorphisme, il va venir parler de la main de Dieu. Puis d'un autre côté, il va dire que rien n'est semblable à lui. Vous voyez, vous trouvez ce deux types de, je dirais, de discours, justement, pour essayer de dire c'est pas ça, mais c'est peut-être ça. Donc ça reste finalement dans le flou. Et puis je crois que, je le disais tout à l'heure, la promesse de Dieu, en tout cas dans le discours coranique, elle repose avant tout sur cet acte de langage. Parce que lorsque, par exemple, Mohammed tente de rallier sa propre tribu à son Dieu, les autres lui demandent des preuves et il leur dit « je n'ai que cette parole ». Donc il faut faire acte de confiance à cette idée de la parole, puisque la parole, l'engagement, on se donne aussi dans cette idée du gage. Et puis la mort, quelque part, je crois qu'on est là surtout pour, je ne sais pas ce que peut être la mort, l'au-delà, l'après, etc. En tout cas, pour moi, ce n'est pas mon souci. Si Dieu existe, ça relève de sa décision. Mais je pense que souvent, parfois, dans notre propre souci, surtout, il me semble, dans le fondamentalisme, on a cette idée du souci de la vie après la mort. Et donc, face à ça, je pense qu'il faut plutôt parfois être dans l'insouci de soi et son propre souci le reporter sur les autres. Et voilà une autre manière aussi de déplacer la problématique de la promesse.
Merci. Oui. Jean-Luc Marion.
Je crois que, si j'ai bien compris votre question... Il y a au moins une promesse qui sera tenue, c'est celle de ma mort. Mais je pense que là, vous ne parlez sans doute pas avec le bon vocabulaire, si je puis me permettre une remarque. La mort n'est pas l'objet de la promesse. C'est l'objet d'une prédiction. Nous pouvons prédire la mort. Il y a nul besoin d'une promesse pour ça. Normalement, la mort est ce qui ne peut pas ne pas arriver. Donc il n'y a pas de promesse. On prédit la mort parce que la mort est dans le temps, en tant que fini et en tant que pure succession. Donc il n'y a rien d'aussi prédictible que la mort. La promesse, c'est justement ce qui ne peut pas être prédit, la promesse. C'est pour ça que son accomplissement ne dépend pas de nous, donc il est toujours vécu comme étant repoussé. Ça a été très bien indiqué tout à l'heure. Donc la promesse, elle vient... Elle est impossible, elle est le possible, parce qu'elle vient d'ailleurs et de quelqu'un d'autre. Pour savoir que ma mort vient, il n'y a besoin que de moi et que de mes prédictions raisonnables. Il n'y a besoin de rien. C'est la chose la plus naturelle du monde. C'est la promesse et la vie qui sont très peu naturelles et qui ne peuvent venir que d'ailleurs. Donc la mort ne nous est pas promise, elle nous est due, prédictible et certaine.
Question suivante.
Bonjour. C'est une Bonjour. Question pour celui ou celle qui veut répondre. Ce que je trouve assez surprenant, c'est que derrière le mot promesse, je le sens comme explique Monsieur Marion, beaucoup de pessimisme. Alors qu'il devrait avoir quand même, je ne sais pas, quelque chose comme espoir.
Delphine Orbideur.
Moi, j'ai senti, au contraire, qu'on a parlé avec beaucoup d'optimisme, de voix qui s'ouvraient, de ces métaphores qui sont chères à nos traditions, des eaux qui se retirent et de la possibilité, au contraire, de voir apparaître un chemin qui présuppose une éternité du présent dans laquelle on sait qu'on n'est pas inscrit. On n'est pas inscrit parce que, pour revenir à la question de tout à l'heure, la mort est permanente dans nos vies. Et au moment même où on parle, tout en parlant de la promesse, on est en train de mourir, ne serait-ce que biologiquement. Et nos corps sont inscrits dans ce que Henri Atlan, vous savez, appelle ce fin équilibre entre le cristal et la fumée, entre tout ce qui peut durer et perdurer à travers cette promesse qu'on entend, non pas comme propriétaire mais comme locataire, et tout ce qui se détruit. Et en réalité, le langage est ce qui va permettre de nous inscrire dans cette éternité du présent qui nous est refusée. Donc j'y vois au contraire un grand optimisme, plus large que nous, biologiquement.
Rachid Benzine.
Je dirais que la promesse est folle, c'est pour ça qu'il faut la faire. Et justement, parce que c'est cette idée à la fois de justement d'appréhender le temps, c'est-à-dire comment... C'est toute cette question de l'identité narrative chez Paul Ricoeur. Lorsqu'on pose la question de l'identité, on fait une narration. Et le principe du récit, c'est de mettre des éléments hétérogènes pour leur donner une cohérence. Et c'est ce qui permet aussi d'interpréter sa propre existence. Et que la promesse, c'est aussi cela. C'est une interprétation de soi, du monde et de l'autre. Et c'est justement parce qu'elle est impossible qu'il faut la faire. Si elle était possible, elle serait pas du tout intéressante. Il y aurait rien à faire.
Et puis, n'oubliez pas, cette remarque de Bernanos, le pessimisme et l'optimisme, ce sont deux manières d'être imbécile. Et il y a de la justesse, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je veux dire, on est optimiste ou pessimiste en se mentant toujours un peu. Non, la réalité est tragique. Et c'est sur le fond du tragique. Enfin, et le tragique apparaît précisément parce que il y a de l'espérance. Quand il n'y a pas d'espérance, ça n'est plus tragique. Donc, l'intérêt de la question de la promesse, c'est que c'est une expérience paradoxale, la promesse. C'est-à-dire que le temps change de nature et de définition. Au lieu d'être ce qui peut être prédit et qui est définitivement clos, dans le meilleur des cas, ce qui peut se répéter, nous avons ce qui ouvre le possible. Mais où voulez-vous ouvrir le possible, sinon en partant de l'impossible? C'est-à-dire de ce qui est totalement extérieur. Le temps linéaire, je peux le prévoir. Donc le temps linéaire, celui de la prédiction, celui de la statistique, celui de la prévision, celui de la croissance ou de la décroissance, c'est un temps dans lequel il ne se passe rien que je ne connaisse par avance. Plus ou moins bien. Mais c'est le temps où rien n'arrive. C'est le temps, le nôtre. Pour qu'il arrive quelque chose, par exemple la vie, il faut que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qui nous semblait impossible. Et c'est ça la question de la promesse. La promesse, c'est une affirmation impossible qui souvent est faite par un autre, d'abord par un autre, et qui ouvre un horizon imprévisible, imprédictible, où l'advenu surgit. Et en ce sens, c'est très optimiste, si vous voulez. Mais c'est un optimisme qui ne dépend pas de nous. Et donc ça, c'est très pessimiste.
Merci. Bonjour. J'étais venu ce matin avec deux questions. Vous y avez en grande partie, et je vous en remercie, répondu. Cependant, j'ose les poser. Elles vont l'une après l'autre, et à chacun. La promesse peut-elle se muer en entrave, en fermeture ou en oppression? La deuxième question, quelles conditions pour que la promesse reste celle d'une libération, d'un engagement? Je pensais en écrivant cela à la citation de saint Augustin, « Dieu crée l'homme comme la mer crée le rivage en se retirant ». Merci de vos réponses.
Rachid Benzine.
Tout le problème de la promesse qui est censée ouvrir sur un oui, ouvrir sur un monde possible, peut aussi se transformer en menace. Et donc du coup, je dirais que parfois, il faut savoir abandonner les promesses lorsqu'elles deviennent une grande menace pour soi et pour les autres. Il y a des promesses parfois qui nous dépassent et dans lesquelles on est malheureux quand on essaie de les maintenir à tout bout de champ. Et tout à l'heure, je disais que la question de la promesse est aussi la question du maintien de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on promet, on promet de se maintenir ou d'essayer de se maintenir malgré les vicissitudes du temps. Mais je promets quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Et Derrida, justement, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Derrida, cette idée que la promesse, lorsqu'elle se développe simplement sous le terme de programme, le programme peut devenir menaçant. Et dans le discours prophétique, si par exemple le discours prescriptif que vous pouvez trouver notamment dans le Coran, si vous le maintenez à chaque fois, il devient un programme, il oublie la promesse, vers quoi il ouvre. Alors que le discours prophétique, en étant subversif, va utiliser le discours prescriptif à un moment donné pour dire une vocation. Et la propre vocation de l'homme, c'est d'interpréter son existence et d'interpréter cet énoncé fondateur de telle sorte à créer un nouveau chantier quelque part qui serait prescriptif, mais ce prescriptif viendrait dire quelque chose de la vocation de l'homme. Et donc le prescriptif est au service d'une vocation. Le prescriptif ne doit pas se transformer en prison. Et toute cette idée de la promesse, de la menace et du programme sont à penser ensemble, et cette dialectique-là, en tout cas, elle est en tension.
Merci.
On disait tout à l'heure que la promesse présuppose une éternité du présent. Je crois que c'est une phrase clé. Elle présuppose qu'on n'a pas changé, qu'on ne va pas changer, tout en sachant que c'est une illusion. Et je crois que précisément, cette promesse, elle enferme, et c'est particulièrement vrai dans le message religieux, elle enferme quand il y a une négation par certains qu'on est devenu autre, que des générations sont devenues autres, que nous-mêmes, une négation que nous-mêmes avons changé. Mais au lieu de voir ce changement comme étant une force, justement, de relecture, une force d'interprétation, eh bien, on le voit comme une entrave, comme une menace pour une pureté de l'entendement de cette promesse originelle. Et c'est le propre de tous les discours fondamentalistes que de s'inscrire dans cette illusion-là de la pureté et de l'inchangé. Voilà pourquoi je suis si sensible à ce que Rachid Benzine disait tout à l'heure au sujet de la possibilité pour les enfants d'Abraham d'enseigner à leur père le sens de la prophétie. C'est-à-dire que finalement le texte lui-même nous dit « Il te faudra entendre la voix de tes fils, finalement de ce que tu es devenu, de ce qu'ils sont devenus, de ce qui a changé dans l'entendement de la promesse, pour véritablement qu'elle soit tenue et véritablement que tu puisses l'entendre. »
Jean-Luc Marion.
Je crois que la perversité possible de l'exigence de tenir sa promesse n'est précisément pas une aporie et une impasse de la promesse au sens que nous avons tenté de développer au sens religieux. C'est essentiellement la promesse, par exemple, politique. Il est tout à fait remarquable que tous les régimes totalitaires veulent sceller la soumission de l'homme de l'individu, je ne vais pas le dire le citoyen parce que justement c'est plus vraiment un citoyen, au régime en question par un serment. En France, il y avait un serment personnel au maréchal Pétain, les nazis portaient un serment personnel à Hitler, et il y a des gens qui se sont considérés tenus moralement par ce serment. Alors pourquoi est-ce qu'ils avaient tort? Pourquoi est-ce que ce serment-là ne devait pas être fidèlement accompli jusqu'au bout? La réponse, c'est parce qu'il y avait personne n'a le droit d'exiger un serment à moins d'être Dieu. Quand les chrétiens étaient persécutés dans les premiers siècles, mais c'est vrai dans l'histoire juive à l'époque des Maccabées et de ces guerres-là, c'était par leur refus de prêter serment à l'égard de l'empereur ou du successeur d'Alexandre. C'est exactement la même question. C'est-à-dire, qui peut exiger un serment? Qui peut exiger qu'on lui fasse une promesse de soumission et de fidélité ad vitam aeternam? Celui qui est Dieu. Pour le reste, c'est une usurpation. Donc, dans ce cas-là, il y a un détournement d'usage de la promesse. Les conditions pour faire une promesse ou pour en recevoir une ne sont pas réunis par l'empereur, le dictateur, l'idéologie, etc. Et donc, c'est un devoir de ne pas faire cette promesse, ou si on l'a faite, sincèrement, de le rompre. C'est un devoir. C'est un devoir même de pure logique. Très peu sont qualifiés pour recevoir ou pour faire une promesse. Et quand vous-même vous faites une promesse à quelqu'un d'autre, vous sentez très bien le poids de cette disqualification que vous avez, que vous éprouvez en faisant cette promesse. Disqualification peut-être indispensable pour devenir vous-même. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de faire une promesse, en un sens, vous n'êtes pas un être humain encore. Mais vous ne pouvez devenir un être humain qu'en sentant la difficulté extraordinaire qu'il y a. Donc, la promesse, par exemple, ne doit jamais être utilisée en termes dans le régime politique. C'est une usurpation. Et donc, alors, bien entendu, il peut y avoir des promesses qui sont destructives dans la moralité, dans l'éducation, etc., mais dans la politique. Le champ de la promesse porte sur l'identité. Donc, il est extrêmement restreint. Il ne faut pas jouer avec les promesses comme avec des grenades dégoupillées, parce qu'elles explosent.
Merci.
Oui.
Oui, bonjour à tous. Les trois religions monothéistes sont basées sur, en fait, les pratiques religieuses et sur une promesse qui a été tenue par Dieu par l'intermédiaire des prophètes, qui est la suivante, c'est que Dieu leur promet le paradis. Donc, tous les croyants, en fait, ils passent leur vie à prier pour espérer un jour entrer au paradis sans être sûr. Maintenant, tout à l'heure, quelqu'un a dit que le seul qui peut faire les promesses, c'est Dieu. Maintenant, qu'en est-il des personnes qui sont athées? Donc, eux, ils s'accrochent à quelle espérance, à quelle promesse?
Non, vous savez, là, cette idée du... je pense pas que... Vous savez, dans le récit du discours coranique, il y a d'abord une idée, c'est que Dieu, lorsqu'il s'adresse aux gens, dit « je vais mettre sur terre un successeur ». Donc on ne sait pas successeur de quoi, donc les exégètes se posent déjà cette question. Mais dans le plan de Dieu, en tout cas selon le discours coranique, il y a déjà cette idée qu'il sera sur terre. Et ensuite, lorsqu'il est chassé justement du paradis, d'ailleurs les deux qui commettent la faute selon le discours coranique, pour vous dire que un discours de structure mythique, chaque fois qu'il change de langue ou change de culture, il prend de nouvelles significations. Dieu, ce qu'il promet, c'est simplement l'idée qu'il y aura une parole qui va le guider. Une parole qui est censée guider l'homme. Il n'y a pas, je veux dire, quand vous prenez d'un point de vue chronologique le discours coranique, l'idée de l'eschatologie, elle vient pratiquement dans une troisième thématique, face à, je dirais, à des Arabes de la Mecque qui ne croient absolument pas dans l'idée de, je dirais, de la vie après la mort. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas de récit de création. Ils avaient des récits des ancêtres, le plus important c'était l'ancêtre. Il n'y avait pas l'idée de récit de la création du monde, de l'homme, l'idée, du jugement. Et ça, c'est quelque chose en tout cas qui est fondamental. Alors je sais que les gens sont préoccupés parce que lorsqu'il n'y a pas justement, lorsque la promesse n'a plus cette capacité d'ouvrir vers un avenir, c'est-à-dire quelque chose qui vient, elle va se renfermer dans le temps présent et on voudrait justement que la venue de ce fameux jour viennent maintenant, mais simplement ce que semble dire le discours coranique, c'est que ce jour-là, il appartient à Dieu. Il appartient pas à l'homme, et c'est à Dieu d'en décider. Donc ça sert à rien de vouloir précipiter la venue de ce fameux jour. Et ce qui est proposé au discours coranique, vous pouvez le trouver dans la sourate 75, justement, on va vous parler à travers un certain nombre, je dirais, de figures ou de métaphores, où c'est Dieu lui-même qui jure, hein. Dieu ne cesse de jurer dans le texte du Coran. Il dit que ce fameux jour viendra. Ensuite, il utilise, les termes de la végétation, les éléments pour rendre compte de cette idée de la résurrection. Et en plein milieu, du centre de cette fameuse sourate, vous trouvez l'idée que, en attendant, ce que le prophète est amené à faire, c'est simplement de réciter le discours coranique, de rentrer dans des éléments de prière, mais que ce temps-là, ce fameux jour, ce qu'on appelle le jour dernier, ou le dernier jour, c'est surtout d'un point de vue éthique pour dire que le dernier mot n'appartient pas à l'homme. Et donc à partir du moment où il appartient pas à l'homme, on ne peut pas juger quelqu'un de manière définitive. Et en tout cas, c'est très intéressant parce que ça libère des champs de possibles puisque le dernier mot appartient à Dieu.
Je compléterais de façon très courte, simplement effectivement dans la pensée rabbinique non plus, il n'y a pas du tout d'obsession de l'eschatologie. Bien au contraire, la question de ce qui va se passer ensuite après ce dernier jour n'est pas vraiment l'enjeu. On dit dans la Bible que lorsque quelqu'un meurt, il rejoint un domaine qui s'appelle le Sheol, Sheola, qui se trouve, vouloir dire en hébreu, le lieu de la question. Donc on n'est pas tellement obsédé par où les gens vont avec une réponse que par une conscience que après se trouve juste une question.
Jean-Luc Marion.
Quelques remarques sur les termes de votre question. D'abord, quand vous dites que vous êtes athée, qu'en savez-vous ? Non, je veux dire, c'est très important ceci, parce que la notion d'athéisme est une notion relative. C'est-à-dire, on est toujours athée d'une certaine conception de Dieu. Au point que, par exemple, les premiers chrétiens ont été accusés d'athéisme et Justin, au IIe siècle, a répondu très clairement qu'ils étaient athées, absolument, mais des dieux tels qu'ils étaient définis par le paganisme. Donc, tout le monde est athée. Le croyant, on peut dire, le croyant est un athée de tous les autres dieux, de toutes les autres représentations de Dieu. Donc, quelqu'un qui dit « je suis athée », je le prends cum grano salis, sous condition. Vous êtes athée de telle ou telle représentation de Dieu. Et d'ailleurs, si vous êtes athée, c'est parce que vous pensez que les représentations de Dieu qu'on vous a proposées ne sont pas correctes. Si c'était correct, vous ne seriez pas athée. Donc, si vous êtes rationnellement athée, ce que j'espère, parce qu'il vaut mieux être rationnellement quelque chose, quand on l'est, vous êtes donc provisoirement athée. Non mais si vous êtes athée en général, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, puisque veut dire sans Dieu. Si vous n'avez pas de définition de cela, ça ne veut rien dire. Donc, on est toujours, tous les gens qui sont athées sérieusement sont régionalement athées, si je puis dire. Mais les croyants sont tous régionalement athées aussi bien. Donc, dire je suis athée, c'est déjà une proposition à laquelle il faut songer qu'elle ne va pas du tout de soi. Deuxièmement, je ne pense pas que les croyants, comme vous dites, soit en train de prier pour accéder au paradis un jour. Ils sont en train de prier parce qu'ils voudraient échapper à l'enfer maintenant. C'est pas pareil. C'est-à-dire ce qui est véritablement dangereux et vital, c'est ce que nous vivons maintenant. Et je pense que les croyants sont des gens qui pensent qu'il est possible d'éviter l'enfer sur terre, ou du moins de l'atténuer. C'est déjà très ambitieux parce que c'est pour tout de suite, et c'est très modeste parce que c'est une vision négative, en quelque manière, du paradis. Et la troisième chose qui vient d'être indiquée par Rachid Benzine et qui est fondamentale, c'est que le jugement dernier signifie que ça n'est ni aujourd'hui ni par nous. Le jugement final est le propre de Dieu, ça vient d'ailleurs, et ce n'est pas nous qui le porterons. Ça, c'est capital. Donc, la question du jugement dernier, du jour le dernier, c'est profondément libérateur, parce que c'est ce qui ne dépend pas de nous. Donc, tout est ouvert. Et c'est ce qui peut arriver à chaque instant. D'où cette règle, difficile à suivre mais fondamentale, vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Donc, évidemment, c'est un profond remède contre la tentation de faire n'importe quoi.
Question suivante.
Nos intervenants, là, on dit Dieu parle, Dieu tient promesse. Mais bon, faut-il entendre Dieu ? Est-ce que nos intervenants ont déjà entendu Dieu leur parler ? Moi, quand j'étais chrétien, j'ai jamais entendu Dieu parler. Alors, en fait, la parole de Dieu, c'est la parole des hommes sur Dieu. C'est une imagination qu'on a. On pense que Dieu dit ça.
Mais c'est vrai, vous en parlez beaucoup. Est-ce que vous l'avez vraiment entendu Jean-Luc Marion, vous qui avez l'air de tout savoir sur tout, là.
Il y a une chose qu'on peut dire, sauf à répéter le traité des trois imposteurs, qui consiste justement à dire ceci, il n'y a pas de parole de Dieu, il y a des paroles sur Dieu mises dans la bouche d'un X égale Dieu. Et donc c'est le témoin qui est l'original de ce dont il se dit le prophète. Non, la réponse, c'est justement la réponse. C'est-à-dire que
La façon dont vous répondez à votre propre question, c'est là que la parole de Dieu se joue. Qu'est-ce que c'est qu'entendre la parole de Dieu ? C'est de dire, quand on entend une parole qui nous advient, parce qu'elle nous advient ainsi, culturellement, comme venant de Dieu, c'est de dire oui ou non. C'est la réponse qui fait l'appel. Non pas que c'est la réponse qui invente l'appel, mais l'appel ne s'entend que dans la réponse qui est faite. L'appel est toujours silencieux. D'ailleurs, d'une certaine manière, les récits qui nous rapportent la parole de Dieu ont toujours cette caractéristique que c'est une parole qui est adressée à Moïse, à Abraham, à Jésus, à Mohamed, à n'importe. Mais il n'y a que lui qui l'entend. Le prophète, c'est le seul qui entend. Les autres n'entendent pas. Et ceci, c'est pas une accusation contre la parole de Dieu, parce que chaque fois que la parole de Dieu nous est rapportée dans un texte par un intermédiaire, comme vous dites très bien, elle nous est rapportée ainsi. Donc la parole de Dieu, elle est toujours entendue par certains et pas par d'autres. Bon, et ça fait partie de sa définition. C'est-à-dire qu'elle dépend de la réponse. Et c'est pour ça que nous qui ne l'avons pas entendue directement, nous pouvons dire que par des intermédiaires, nous l'avons entendue. Puisque, en fait, tout se passe dans la réponse. Mais faites attention, parce que revenons au phénomène érotique. Dans le phénomène érotique, c'est pareil. C'est-à-dire, celui qui sent que quelque chose peut se passer avec quelqu'un d'autre, après tout, tout le monde pourrait avoir la même réaction. Mais il y en a un qui croit que c'est possible et qui croit que c'est destiné à lui. Illusion, peut-être. Mais c'est sa réponse qui va faire que c'est pas une illusion, c'est une possibilité. Il va peut-être se planter, prendre un râteau, possible. Mais cela même, c'est la réponse. Donc il faut faire très attention sur le fait que une parole, c'est ce qu'on n'entend pas. Dire qu'un appel, c'est ce qu'on n'entend pas, c'est tout à fait sensé. La plupart des appels, on ne les entend pas, mais on y répond quand même. Donc, ce que vous faites, ce n'est pas une objection, c'est une description.
C'était le forum Le Monde Le Mans avec aujourd'hui Rachid Benzine, islamologue, Delphine Horwiller, rabbin et Jean-Luc Marion, philosophe. Un débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son Georges Thau, réalisation Isabelle Huel et François Connac.